prier. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour. Tu nous as rappelé ce matin. Merci pour le pardon de nos péchés, pour ta patience, pour ta bonté. Je prie Seigneur que tu bénisses ceux qui vont enseigner nos enfants et que tu me diriges aussi pour parler fidèlement. Ouvre nos cœurs à tous, Seigneur, et que nous recevions ta parole et que nous la mettions en pratique. Je te le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11. Donc on va continuer dans cette lettre où l'apôtre Paul explique sa façon d'agir. Il explique ses réactions à des chrétiens qui ne le comprennent pas et qui du coup le critiquent. J'aime beaucoup le passage qu'on va lire aujourd'hui. C'est un passage que je trouve très beau. Pas parce que ce serait de la belle littérature ou de la poésie, non. C'est un passage que je trouve beau parce qu'il exprime de belles choses au sujet du Seigneur, des vérités qui, je trouve, font du bien. Donc on va lire 2 Corinthiens 11, les versets 1 à 4. Il dit « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » J'arrête là la lecture. Première chose qu'on va voir dans ce texte, c'est qu'il est question de jalousie, la jalousie de Paul et la jalousie de Dieu. Donc on va voir un petit peu de quoi il s'agit et on va voir ce que ça nous apprend surtout sur le Seigneur. On va voir pourquoi l'apôtre Paul est jaloux et en quoi cela nous renseigne sur le caractère de Dieu. Et on va pouvoir aussi tirer quelques recommandations de ce passage pour nous. Et j'ai dit que c'était un passage que je trouve beau. Oui, parce qu'il est question d'amour, même si ce mot-là n'est pas mentionné textuellement. C'est un passage qui nous parle d'amour et on va voir cet amour de Dieu qui nous dépasse. Et donc la première chose que ce texte nous amène à voir, c'est qu'il est question de jalousie. La jalousie de Paul, d'abord. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait vu qu'à l'église de Corinthe, il y avait des personnes qui se glorifiaient. Il y avait des enseignants qui accaparaient l'attention et qui faisaient que les regards étaient dirigés vers eux plutôt que vers Dieu. Et ces enseignants qui étaient soi-disant super spirituels, finalement, ils volaient la gloire de Dieu. Et ce n'était plus le Seigneur qui était au centre, c'était des hommes. Ce n'était plus le Seigneur qui était adoré, c'était des hommes. Et on voit aussi en lisant notre texte de ce matin qu'il y avait un problème dans l'enseignement de ces personnes. Il y avait un problème parce qu'ils prêchaient un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul évoquait de la jalousie, éprouvait de la jalousie. Alors est-ce que ça vous étonne que quelqu'un comme l'apôtre Paul éprouve de la jalousie ? Quand on vous dit jalousie, vous pensez à quoi ? Souvent, on va penser au mauvais côté de la jalousie, à la suspicion, on va penser à la méfiance, à la crise de jalousie. Mais ça, c'est une jalousie qui est humaine et qui ne porte pas les traits du caractère de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul précise qu'il est jaloux, mais d'une jalousie de Dieu. Une jalousie qui est conforme au caractère de Dieu. Notre jalousie à nous est profondément égoïste. Quand on est jaloux, c'est que quelqu'un qu'on aime ou quelque chose qu'on désire nous échappe. La jalousie, notre jalousie, elle fonctionne parce que notre moi est frustré. Mais on voit que ça n'est pas la jalousie de Dieu. Regardez dans Galates 5, versets 19 et 20, il est question des œuvres de la chair. Galates 5, 19 et 20. Et les œuvres de la chair, c'est-à-dire de la nature humaine, lorsqu'elle n'est pas sanctifiée par Dieu, il dit que les œuvres de la chair sont manifestes, évidentes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Donc la jalousie, notre jalousie, c'est l'œuvre de la chair. Par contre, il est dit, et on le retrouve plus de 10 fois dans la parole de Dieu, que Dieu est jaloux. Et c'est de cette jalousie, une jalousie qui est semblable à celle du caractère de Dieu, c'est cette jalousie-là qui anime l'apôtre Paul. Et il y a une grande différence entre ces deux jalousies. La nôtre porte les marques du péché, celle de Dieu est sainte, elle est pure, elle est parfaite. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est jaloux? Si c'est une jalousie qui est différente de la nôtre, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qui le rend jaloux? Alors, on va regarder un autre passage, plusieurs passages ce matin. Exode 34, verset 14. Exode 34, verset 14. Il est dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. On voit que ce qui attise la jalousie de Dieu, c'est quand nous sommes idolâtres, quand nos cœurs se détournent de lui et qu'on va se prosterner devant une statue, un tableau, un objet. Mais l'idolâtrie, c'est aussi quand nos cœurs se détournent de Dieu vers quelque chose qui va prendre sa place. Il y a tellement de choses qui peuvent prendre la place de Dieu dans notre vie. Un objet, un sport, un loisir. Et nous-mêmes. Ce qui attise la jalousie de Dieu, c'est quand nos cœurs ne sont pas entiers pour lui, mais qu'ils sont tournés vers quelque chose ou quelqu'un d'autre que lui. On va regarder dans 1 Corinthiens 10. Une autre lettre qui a été écrite à ces mêmes Corinthiens qui avaient l'habitude de fréquenter des temples païens et de participer aux fêtes. 1 Corinthiens 10, versets 21 et 22. On dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Et quand je vois ces reproches qui sont faits à des chrétiens, à des enfants de Dieu, quand je vois aussi combien mon cœur est facilement tenté, des convoitises de tous les côtés, attirées d'un côté, de l'autre, plutôt que vers Dieu. Et je crains d'attiser la jalousie du Seigneur. Et on devrait le craindre aussi, parce qu'il est écrit que l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Ça devrait susciter en nous une crainte, la peur que Dieu soit jaloux. Est-ce qu'il y a dans nos vies quelque chose qui pourrait susciter la jalousie du Seigneur? Est-ce qu'on voue un culte à un objet, à une personne, ou à nous-mêmes? C'est tellement facile de faire notre volonté plutôt que celle de Dieu, mais c'est de l'idolâtrie. Alors je sais que c'est un diagnostic qui n'est pas forcément facile à faire. mais je voudrais vous donner une piste. Examinez votre vie. Est-ce qu'il y a des moments où vous savez que vous devriez passer du temps avec Dieu et où vous ne le faites pas? Qu'est-ce que vous faites à la place? Je dis vous, mais ce diagnostic, je l'ai fait dans ma propre vie, avant de m'adresser à vous. Ce que l'on fait à la place du service pour le Seigneur ou de l'adoration, simplement de passer du temps avec le Seigneur, il y a des chances pour que ce soit une idole dans notre vie. Même si ce ne sont pas forcément des choses moralement mauvaises, à partir du moment où elles vont prendre la place de Dieu, elles deviennent mauvaises. Même si ce sont des occupations innocentes. Alors, je ne sais pas, peut-être que ce que je vous dis ce matin, ça vous semble un petit peu extrême, mais je ne crois pas que ça le soit. Imaginez un couple dans lequel l'un des deux époux néglige l'autre. Et il passe tout son temps en occupations diverses, pas forcément des occupations mauvaises, mais plutôt que de passer du temps avec son conjoint. Est-ce que ce ne serait pas normal qu'au bout d'un moment, l'époux ou l'épouse qui se sent délaissée éprouve de la jalousie? Il ne s'agit pas forcément que le conjoint aille voir quelqu'un d'autre. Non. Simplement négligence. Il n'y a rien qui devrait prendre cette place de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Pour en revenir à notre texte, cette jalousie-là, c'est une jalousie de Dieu. C'est cette jalousie qui anime l'apôtre Paul. Et ce qui le peine, c'est pas que les Corinthiens écoutent d'autres prédicateurs que lui, parce que ça, ce serait égoïste. Ça, ce serait de la jalousie humaine. Mais ce qui le peine, c'est que leur cœur soit tourné vers quelqu'un d'autre que Dieu. Ce qui le rend jaloux, c'est aussi qu'il se laisse séduire par un autre Jésus qui est prêché. Que Christ ne soit plus le centre de leur vie. Il y a des couples ce matin parmi nous. Est-ce qu'il y a de la place pour une troisième personne dans votre couple? Un troisième larron? Dans le cœur de Dieu, il n'y a pas de place pour un troisième larron dans le couple. C'est lui et nous. Notre texte disait « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Christ est le fiancé de chaque chrétien. Il s'est consacré pour chacun de nous. Regardez dans Jean 17. Jean 17, le verset 19. On voit là la prière que le Seigneur a adressée pendant qu'il était dans le jardin de Gethsémané. Il était en agonie, il savait qu'il allait d'ici peu de temps passé par la croix, et il a dit, il a prié son père, il a dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Je me sanctifie, ça veut dire je me mets à part, je me réserve exclusivement pour eux. Cette vie que j'ai vécue, je l'ai vécue pour eux. Je me suis abstenu du péché pour eux. Et la croix, c'est pour eux. Est-ce que vous faites le rapprochement avec un fiancé qui se consacre à sa fiancée? Il ne va pas voir ailleurs. C'est pour elle. Il se garde pour elle. Et nous, c'est à Christ que nous sommes fiancés, c'est à lui qu'on doit être consacré, c'est à lui qu'on doit être fidèle. Quand quelqu'un décide de garder sa virginité pour son futur conjoint, c'est beau, c'est quelque chose qui est noble. Est-ce qu'on dirait d'un fiancé ou d'une fiancée qui court à droite et à gauche pendant le temps de ses fiançailles qu'il est consacré à son ou à sa future? Est-ce qu'on dirait même qu'il l'aime s'il va à droite à gauche? Et qu'est-ce qu'on va dire du chrétien qui vit dans la débauche, qui vit pour les plaisirs, qui vit dans la négligence et qui manifeste pas d'attachement à son Dieu, à son fiancé? Le but de ces fiançailles, c'est qu'on soit présenté à Christ comme des vierges pures. Et ce texte nous montre que l'apôtre Paul éprouvait des craintes pour cette église parce qu'il risquait de se détourner du véritable sauveur, du véritable évangile et du véritable esprit de Dieu. Parce qu'il y avait de faux enseignements, il leur a dit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Est-ce que nous supportons l'infidélité dans notre vie? Est-ce qu'on s'en accommode bien? On vit dans les derniers temps, à une époque où le Seigneur et ses apôtres ont prévenu qu'il allait y avoir des faux enseignements partout, des faux docteurs de partout. Et l'Église doit se prémunir de ces fausses doctrines. Il y a quelques semaines, il y avait le forum des associations, et c'était vraiment une joie de pouvoir y participer, d'avoir un stand pour notre Église, de pouvoir partager la parole de Dieu à quelques personnes qui se sont approchées de nous. Et il y a une personne qui est passée près de notre stand, et je l'ai entendue dire qu'elle aimait beaucoup Jésus. Alors tout de suite, mon attention a été attirée, et elle dit « Oui, j'aime beaucoup Jésus, il m'inspire au quotidien dans ma vie. » Alors quand on entend ça, on est prêt à crier « Alléluia !» Mais on a bien fait de pas crier « Alléluia !» parce qu'un instant après, cette personne, on lui a proposé une Bible, et elle a ajouté qu'elle n'en avait pas besoin, parce que elle avait son propre Jésus. Et selon ses propres mots, elle se faisait sa petite cuisine. Rien à voir avec le Seigneur Jésus qui est dépeint dans la Bible. Et c'était d'une tristesse. C'était affligeant. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai dû éprouver quelque chose de cette jalousie de Dieu en voyant cette personne qui aimait un autre Jésus que le seul vrai Jésus. Vous savez, on peut facilement accepter un autre Jésus que celui de la Bible, un Jésus qui est plus tolérant avec le péché, un Jésus qui n'accorde pas d'importance à la sainteté, un Jésus qui ne fait aucun reproche, un Jésus qui nous laisse libres de faire tout ce que nous voulons. Un Jésus qui n'a jamais dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». Un Jésus qui n'a pas dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Quand on oublie ces choses-là, on oublie qui est Jésus et on en vient tout doucement à glisser vers un autre Jésus-Christ. On doit faire attention à ces séductions du diable. Il a séduit Ève par la ruse. Il ne va pas s'y prendre autrement avec nous. Par la séduction, par des choses en apparence belles, bonnes, en apparence bibliques. Mais il va déployer toute son énergie et tout son pouvoir simplement pour nous éloigner du Seigneur. récemment, j'ai été amené à méditer sur 1 Corinthiens 7, verset 35. Je vous invite à regarder ce verset avec moi, 1 Corinthiens 7, verset 35. La parole de Dieu dit, 1 Corinthiens 7, 35. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. J'ai été amené à méditer sur ce verset parce que dans mon contexte à moi, on n'a plus d'internet à la maison depuis 10 jours, et du coup, il y a un certain nombre de sujets de distraction qui ont disparu. Mon attention est beaucoup moins sollicitée et mes pensées peuvent beaucoup plus se consacrer au Seigneur sans distraction. Mais dans le contexte de la Bible, il est question du mariage et du fait que le mariage peut amener l'un des conjoints à s'attacher davantage à son époux qu'au Seigneur. Et le but, au contraire, c'est qu'on s'attache au Seigneur sans distraction, que notre attention, notre énergie soit focalisée sur ce seul but de nous attacher à Christ et à Christ seul. Vivre pour lui, être attaché à lui. Alors je ne sais pas comment vous prenez tout ça, cette jalousie, ce feu dévorant. Est-ce que c'est un poids? Est-ce que c'est un carcan? Est-ce que c'est une privation de liberté? Est-ce que aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force vous pèse? Si je vous pose ces questions, c'est parce que parfois ça peut nous peser. On peut le ressentir comme un carcan, comme une privation de notre chère liberté. Et peut-être que ça nous semble écrasant parce que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre. C'est un idéal qu'on n'arrive pas à satisfaire. Et quand on est face à quelque chose qui nous semble impossible, rapidement ça devient déprimant et ça peut même devenir paralysant. Et quand ça m'arrive, parce que ça m'arrive, c'est souvent parce que j'oublie que je ne peux aimer Dieu que parce qu'il m'a aimé le premier. Dans 1 Jean 4, il est écrit « Pour nous, nous l'aimons. » Oui, nous pouvons aimer Dieu, mais uniquement parce qu'il nous a aimé le premier. Mon amour pour Dieu, il ne peut être qu'une réponse à son amour. C'est ce que nous dit la Bible. Et essayer de l'aimer sans avoir reçu son amour, ça mène à ce carcan, à ce fardeau, quelque chose d'écrasant et d'impossible. Dieu est amour. Dieu est amour. Ça veut dire que cette jalousie dont on a parlé, elle est motivée par l'amour. Elle provient du caractère aimant de Dieu. Il est écrit que Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Alors je ne sais pas si vous êtes d'un tempérament jaloux ou si vous avez été confronté à la jalousie de quelqu'un d'autre. C'est pas évident parce que la jalousie, quand on est jaloux, ça nous dévore de l'intérieur. Il y a ce feu dévorant. Et quand on est sujet à la jalousie de quelqu'un, on est sous ce feu dévorant aussi. Mais si cette jalousie de Dieu est si grande, c'est parce que son amour est grand. Je me suis demandé, en lisant le texte de 2 Corinthiens 11, pourquoi est-ce que Paul parlait de folie. Il dit, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais est-ce que c'est pas simplement parce que l'amour de Dieu est complètement fou? Il nous dépasse. Il nous dépasse tellement. Il n'y a pas de mots pour décrire cet amour. Dans nos cœurs, il n'existe pas à l'état naturel cet amour. Qui connaît Jean 3, 16 ? C'est tout ? On n'est qu'une vingtaine à connaître Jean 3, 16 ce matin ? Non ? Vous savez, ce verset, je pense qu'on est nombreux à le connaître, à l'avoir lu, relu, re-relu. On est capable certainement de le réciter par cœur, non ? Est-ce qu'à force, vous ne le trouvez pas fade ? Vous savez, comme un plat qu'on a mangé, un bon plat qu'on aime bien, mais on l'a mangé, remangé, re-remangé, à force, il a perdu sa saveur. Ben, ce verset m'a fait du bien parce qu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde, et ce mot « tant aimé », j'aurais voulu exprimer ça, je n'aurais pas réussi. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Je ne peux pas te commenter ce verset. Et si la jalousie de Dieu nous paraît extrême, c'est simplement parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a eu l'amour le plus grand, il a fait le don le plus grand au plus grand nombre de personnes possibles. J'aime aussi beaucoup une parole que le prophète Osée adresse à sa femme. Le prophète Osée, c'est le prophète de l'adultère. Dieu lui a dit d'aller épouser une femme infidèle, une femme qui allait devenir infidèle. Et elle a été infidèle. Elle s'est même prostituée. Et il lui dit, chapitre 3, verset 3, il va la racheter. Elle s'est vendue comme une prostituée à de nouveaux maîtres. Et il lui dit, après l'avoir rachetée, reste longtemps pour moi. Ne te livre pas à la prostitution. Ne sois à aucun homme et je serai de même envers toi. C'est tellement beau que cet homme qui a été trompé, pas qu'une fois, dont la femme s'est vendue, elle s'est vendue, il va la racheter et lui dire, reste avec moi, je serai tout entier pour toi, uniquement pour toi, mais reste avec moi. C'est que c'est Dieu qui parle comme ça aux adultères que nous sommes ou que nous pouvons être. Je voudrais terminer avec Nombre chapitre 6. Nombre 6 verset 24 et suivant. Je vais lire même à partir du verset 22. Nombre 6 à partir du verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. C'est une magnifique bénédiction. Ce qui me touche, c'est qu'elle devait être prononcée par le souverain sacrificateur. Et nous avons un souverain sacrificateur. On l'a lu tout à l'heure dans Hébreux 7, je crois, ou Hébreux 9. Un souverain sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous, qui veut nous bénir et nous dire que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix.